madamina. Il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio, un catalogo egli è che ho fatti io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1003.
Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
Bonjour Hector Bianchetti. Alors, vous êtes deux aujourd'hui, hein. Une fois n'est pas coutume, et on commence avec Don Giovanni de Mozart, l'air du catalogue, bien entendu. C'est pour vous, Philippe Solers, dirigé par Carlo Maria Giulini, l'Eporello, c'est le baryton Taddei. Et puis tout à l'heure, il y aura un petit peu autre chose comme musique pour vous, Hector Bianchetti. Donc aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel, ici au Select, non pas un invité mais deux, parce que finalement, ces deux écrivains parlent de la même chose, c'est-à-dire des autres écrivains et des autres textes que les leurs. Une fois n'est pas coutume. Philippe Solers, c'est Éloge de l'infini aux éditions Gallimard, et puis Hector Bianchetti, Une passion en toutes lettres aux éditions Gallimard également. Et dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un recueil d'articles ou d'essais qui ont déjà été publiés, mais dans le cas de Philippe Solers, ça se présente comme autre chose. C'est-à-dire que ce qui pourrait être un recueil, eh bien, dans le cas de Solers, ça prend la dimension d'un projet encyclopédique et stratégique. Expliquez-nous la différence.
Ben, c'est-à-dire, il y a les textes qui vous sont demandés dans certaines situations, par exemple des journaux comme Le Monde, d'autres, et s'agissant des livres. Il y a d'autres demandes qui sont, par exemple, lorsqu'il y a une exposition, une grande exposition de peinture, etc. Alors, il s'agit de choisir, en fait, ça c'est de la ruse. Les supports veulent vous utiliser et donc il s'agit de les utiliser dans un projet. Donc on choisit au fur et à mesure, comme si on avait un échiquier, de remplir des cases en fonction d'un livre futur. Et donc le projet de rapprochement des textes ne peut avoir lieu qu'en volume. Sinon c'est dispersé comme ça, on a l'impression que ça court. Par exemple un texte sur Cézanne, un texte sur Bacon, un texte sur Picasso, un texte sur Pascal, sur Rimbaud, sur Hemingway, sur Céline, sur Aragon, etc. Et puis petit à petit, dans mon esprit en tout cas, le volume est le moment de faire apparaître pendant 6-7 ans le travail qui était à l'œuvre derrière, c'est-à-dire le calcul, qui est un projet en effet encyclopédique. Je crois qu'on est dans une époque d'ignorance ou de commémoration inutile ou d'amnésie, etc. Je pense que c'est la même chose pour Hector Bianchetti lorsqu'il écrit ses articles sur les écrivains. Il est important d'avoir un projet de mémoire très active, très effervescent.
Comme s'ils allaient
disparaître ? De ramener. Je crois qu'il y a un malaise, oui. C'est Claudel qui disait d'une façon très, très brillante, à mon avis, à quoi sert la littérature ? Vous savez que c'est un grand sujet. Elle sert à nous apprendre à lire. Voilà, justement. Ça, c'est pas, vous me direz, elle doit décrire le monde, la souffrance du monde, la misère du monde, ou la réalité. Mais sa première fonction, c'est d'apprendre à lire. Et pour savoir, comme a dit aussi quelqu'un d'autre, pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Vous savez très bien, dès que vous lisez un écrivain, que la façon dont il vit au fond, c'est-à-dire à travers ce dont il parle, non seulement qui il est, mais la façon qu'il a de disposer son temps, son énergie, son corps, etc.
Et vous, Hector Bianchetti, si vous avez eu ce même sentiment, cette même conviction encyclopédique, en réunissant, déjà en écrivant ces articles pour différents journaux, et en les réunissant ensuite ?
Non, ce n'est pas. Je connais très bien le livre de Solers et il y a vraiment là une vision des choses qu'il va apprendre peu à peu. Je veux dire, parce que c'est Cézanne, ce sont les peintres, c'est d'une façon extraordinaire, par exemple Picasso. Et puis il y a soudain ce qui me plaît beaucoup, 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 c'est par exemple passer de Pascal et à d'autres qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, moins connus. Et soudain, il y a cette chose que les Français, je pense, qu'ils ne connaissent pas au théâtre, et c'est Claudel. Claudel, dont on ne peut pas dire « j'aime Claudel » sans que les gens fassent comme ça. Ah, oui, mais Claudel. Oui. Ah, je crois que nous sommes deux à aimer pincée, Claudel.
Oui. Un peu plus que deux, tout de même.
Deux, oui.
Croyez ?
Vous aussi ?
Oui, un certain nombre. Écoutez, ici, au Select, si on faisait un sondage parmi les auditeurs qui sont venus nous rejoindre, oui. Je suis sûr qu'on en trouvera d'autres.
Vous savez, mon livre, c'est autre chose.
Une parenthèse sur Claudel. Il y a quelques semaines, j'ai pu assister avec beaucoup d'autres à l'otage mis en scène par Bernard Sobel. Eh bien, je peux vous assurer que la salle était pleine et pas uniquement de gens de plus de 65 ans. Hein.
C'est-à-dire il tient beaucoup par son théâtre, oui. Et que les comédiens aiment jouer d'ailleurs, que les metteurs en scène aussi aiment mettre en scène. Mais le Claudel prosateur est quand même assez méconnu. C'est-à-dire le Claudel qui écrit sur la peinture, l'œil écoute, le Claudel de connaissance de l'Est, le Claudel de la pensée à propos de la poésie. Ça, il est un peu oublié, c'est très dommage.
Mais est-ce que ça signifie pas, je pose la question à l'un et l'autre, hein, comme toutes les questions de ce matin, est-ce que ça signifie pas que pour rester un grand écrivain dans la durée, aux yeux des Français, il faut être d'abord un grand romancier ? Ce qui n'est pas le cas.
Pas seulement, parce qu'on peut pas dire que Gide, l'adversaire de Claudel, voyons, le début du XXe siècle, ça commence par une affaire extraordinaire entre Gide et Claudel. Gide tient très bien le coup, on le voit récemment, et donc on ne peut pas dire que Gide soit un grand romancier.
Non, mais c'est un grand diariste, et c'est un grand épistolier, un grand critique.
Je ne sais pas, non, Pascal n'est pas un grand romancier, encore qu'on pourrait dire que c'est un romancier métaphysique.
Non, mais il y a un autre exemple que connaît bien Hector Bianchotti, c'est Borges.
Oui.
Qui n'est pas romancier.
Mais qui n'est pas.
Et qui reste dans la durée.
Oui. Il n'y a pas de genre, voilà.
Oui. Non, mais par exemple, quand même, Claudel, alors que, en principe, vous savez, pour moi, il y a une lutte merveilleuse, depuis toujours, en France, dans la langue française, dans la littérature française. On peut être l'idéal français, c'est les peu de mots, les peu d'adjectifs, etc., etc., etc. C'est la prose merveilleuse de Voltaire. Mais quand on voit les grands romanciers ou les grands hommes de théâtre, vous pouvez voir qu'ils sont immenses et débordés. Et Claudel est un grand dévoreur extraordinaire.
Bon, on aura compris pour Claudel. Bon, on peut passer toute l'émission sur Claudel, si vous voulez. Parce que ça ne serait pas inintéressant. Mais c'est la passerelle entre vos deux
l'intérêt,
livres.
L'intérêt, je crois, d'une possibilité d'encyclopédie, aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est précisément qu'on peut, je crois que l'éloge de l'infini le montre assez bien, aimer à la fois Voltaire et Claudel. Ou Céline et Rimbaud, ou Pascal et Hemingway, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, des auteurs qui apparaissent extrêmement contradictoires, si on s'en tient simplement à l'idéologie ou au contenu. Mais sur la force de la langue, on peut aimer le sec ou le débordant. Il y a Aragon par rapport à Claudel d'un côté, ou bien des choses extrêmement réduites, comme les romans libertins, l'incision du français. Il faut faire vivre la langue sous tous ses étages.
Alors, ce qui est fascinant quand on compare vos deux livres, enfin on les compare, on les lit ensemble, et c'est le même plaisir dans l'un et dans l'autre, parce que c'est un vrai plaisir de lecteur. On comprend bien qu'un écrivain, c'est d'abord un lecteur, et qu'il reste un lecteur toute sa vie.
Mais oui.
Avant tout.
Oui.
Mais la différence entre vos deux types d'articles, j'allais dire, tels qu'ils sont dans ces deux recueils, c'est que, Solers, vous, on a l'impression que quand vous écrivez sur un écrivain, vous êtes entouré de livres, car vos textes sont truffés de citations de tous ces écrivains. Et ce qui est fascinant, c'est justement l'entrecroisement, l'entrelac entre tous ces gens que vous faites rencontrer uniquement sous votre plume et qui ne se rencontreraient pas autrement.
C'est une question de montage. Et là, ça devient très intéressant parce que lorsque vous avez réuni, en effet, ce qui fait l'essence d'un écrivain, c'est-à-dire sa phrase, sa formulation, le choix des mots, sa vitesse ou sa lenteur, vous êtes obligé de... C'est comme un match, en quelque sorte. Vous êtes là et vous vous dites, il faut que je sois à la hauteur.
Oui. Hein,
et si, si vous n'arrivez pas à être à la hauteur de ce qui est là sous vos yeux, donc c'est, vous faites de la peinture avec tous les peintres, vous faites de la littérature avec tous les écrivains, vous faites de la musique avec tous les musiciens. C'est ça qu'il faut rendre sensible au public. Prenons les peintres. Picasso fait de la peinture avec toute l'histoire de la peinture. C'est ça qui est absolument extraordinaire chez lui. Bacon, Francis Bacon aussi. Donc, ce n'est pas l'originalité qui est à chercher d'elle. L'originalité va venir. Mais il faut être à la hauteur de tous ces morts qui sont plus vivants que les vivants, en somme. Et ouais. qui vous demandent, je crois que Hector Bianchetti pourrait dire la même chose, il y a une requête des morts qui étaient soi-disant morts, mais ils sont là très très vivants, oui, dans le tableau, dans leur phrase.
Ce qui est frappant dans la technique, c'est que par exemple Hector Bianchetti, évidemment, les cite, mais beaucoup moins de vous. Vous êtes beaucoup plus économe dans vos citations, vous préférez les analyser, les montrer telles que vous les avez compris ou lues, plutôt que de les donner dans le texte, comme le fait Philippe Solers.
Moi, vous savez, moi, je l'ai fait pour des journaux, toujours. Et j'ai commencé en 72. Le troisième livre que je faisais au Nouvel Observateur, c'était Philippe Solers, que je ne connaissais pas. Oui. Et que je me disais, parce que ça, j'aimais beaucoup.
C'était quel livre?
H, non, c'est pas,
oui,
ça.
Oui, H.
C'est un livre. Alors ça, c'était, ouais, très étonnant qu'il rappelle ça, parce que c'est un livre très qui a été très mal jugé, mais avec un très bon article. Hector Bianchetti.
Moi, je dis en passant que j'ai une sorte d'amour pour un livre, que peut-être ce n'est pas le livre préféré de lui, c'est Drame. Non, mais j'avais dit de ce livre, figurez-vous, je ne connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. J'avais vu sa revue célèbre, etc., que je n'aimais pas. Et je me disais, voilà, ça, c'est l'écrivain qui ne pourra pas supporter les autres gens parce qu'un grand écrivain est seul.
C'est toujours votre conviction.
Et il est seul. Je le disais en 73.
Bon, et aujourd'hui, 30 ans après.
Hein?
Et 30 ans après, c'est toujours votre conviction, un grand écrivain est seul.
Non, mais maintenant, je sais qu'il est seul, qu'il est grand. Alors, voilà, non, mais moi, pour les articles, vous voyez, moi, quand j'ai commencé, il faut le dire ça quand même, je ne me vante pas. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas la littérature étrangère. Et alors, il y avait un étranger, et c'était moi. Et moi, je le connaissais parce que je suis argentin.
Oui.
Et vous savez, argentin
d'origine italienne, donc vous avez plusieurs langues. C'est important parce que... Non, mais c'est important parce que... bon, vous parlez tous les deux, dans vos deux livres, de tous les écrivains qui comptent, qu'on a envie de lire, et ceux qu'on connaît mal. Mais c'est vrai que vous, Hector Bianchetti, il y a beaucoup plus d'étrangers dans le vôtre,
oui.
Il y a beaucoup plus de Français ou d'Européens, de Français,
vous savez,
disons, dans celui de Solers. Ce qui n'est pas hasard, vous les lisez dans le texte.
Si, mais je dis en Argentine, parce que l'Argentine n'a pas un passé culturel, il n'y a pas de littérature derrière. Alors on pique surtout sur la France, mais sur l'Angleterre, sur les États-Unis, sur la Chine, sur tout ce que vous voulez. Mais surtout sur les encyclopédies. Parce que si vous croyez que Borges a su des choses qu'il a étudiées, etc., avec un texte de l'encyclopédie d'une 11, le nom, l'année 11, hein, pas, il n'acceptait pas le reste. Bon, avec ce texte, ce petit texte, il faisait quelque chose d'extraordinaire.
Alors, on voit bien ce que vous avez choisi de garder dans vos deux livres, mais on ne voit pas, par définition, ce que vous n'y avez pas mis. Alors, qu'est-ce que vous avez retranché, Philippe Solers ?
Oh ben, y a beaucoup de textes de circonstances, de textes qui sont plus journalistiques ou politiques ou d'opinion, qui feront l'objet d'une autre publication. Là, je me suis concentré surtout sur les études, les études à proprement parler d'un livre fondamental. Si c'est Rimbaud, j'essaye d'aller au cœur de Rimbaud, c'est-à-dire des illuminations, étudier de près ce qu'il a voulu faire exactement, qui n'a pas encore été suffisamment analysé d'après moi.
C'est l'art et la littérature, essentiellement.
C'est l'art et la littérature, avec, je crois, une très grande... nécessité pour ce qui est du français, parce que voilà une langue étrange qui est que le français se prête mieux, je crois, que toutes les autres langues a une coïncidence avec la peinture. C'est-à-dire, il y a une tradition française, c'est-à-dire que ce soit Diderot, on parlait de Claudel tout à l'heure, Claudel, la peinture hollandaise, Mallarmé à propos de Manet, Artaud à propos de Van Gogh, ce texte absolument sublime qu'on réédite d'ailleurs ces temps-ci, Van Gogh,
le sujet de la société,
Breton et Aragon à propos de l'un de Matisse, l'autre de Picasso. Il y a une tendance bizarre du français, de même qu'on peut dire que le français, c'est la langue de la chose, comme dit cette merveilleuse chanteuse qui s'appelle Cécilia Bartoli, la chose, c'est la chose érotique.
Mais justement,
Philippe
Solers, à propos de musique, j'étais frappé. Bon, évidemment, dans le cas des deux livres, il y a une vraie musique des mots, il y a une voix à chaque fois. Mais la musique, avec un grand thème, est à peu près absente de votre livre, sauf Mozart.
Il faudra en effet faire un livre à part sur la musique, parce que c'est un autre.
Non,
c'est tout un continent.
Vous avez beaucoup écrit sur la musique ?
Oui.
Non, mais curieusement, elle est absente dans vos références littéraires.
Là, c'est surtout la peinture et la littérature.
Oui, mais on aurait pu, au détour d'un article sur n'importe quel écrivain, trouver des références musicales, ou ce que ça aurait pu évoquer pour vous.
Mais parce que l'écrivain a sa musique propre, qui n'est pas la musique de la musique. Il y a une musique des lettres qui est spécial, et en effet, il faut savoir identifier quelle est la voix de l'écrivain. Des voix très diverses, mais là, on ne peut pas faire entrer, on ne peut pas écouter la littérature sur fond de musique, si vous voulez. Si on s'occupe de musique, il faut abandonner la littérature.
Écoutez, quand vous lisez Sioran, vous ne pouvez pas ne pas tomber sur Bach.
Oui, bien sûr, mais Bach, le cinquième évangéliste, c'était le seul musicien, en effet, qui donnait une sorte d'espoir à Sioran, qui était par ailleurs pas totalement désespéré, oui.
Hector Bianchetti, est-ce que vous aussi, vous considérez la lecture comme un art de vivre ?
Un art de vivre ?
Oui.
La littérature, pour moi, la littérature et la lecture, c'est pour moi, on ne peut pas écrire si on n'a pas lu. Je veux dire, quand on voit les écrivains, quand on voit par exemple Montaigne,
voilà, c'est l'exemple absolu. Oui.
Montaigne, c'est l'exemple absolu. Je veux dire, on dit toujours que c'est lui qui a inventé l'intimité en littérature. Mais 11 ans avant, il y a quelqu'un qui a déjà écrit les mêmes textes sur la mort de son amant ou ami. Et avec certaines phrases grecques identiques, c'est Saint Augustin. Saint Augustin est pour moi le plus grand, le premier grand écrivain personnel, qui parle de lui. Mais quand on lit les classiques, les grands classiques, on voit que cette chose que maintenant on fait un procès parce que quelqu'un a piqué dans les livres d'un autre, hein,
oui,
il faisait tout.
Vous parlez du plagiat,
oui. Mais ce n'est pas du plagiat, c'était la lecture. C'était la lecture, elle transformait les choses. Quand Montaigne dit, par exemple, à la mort d'Étienne de la... Comment s'appelle ?
Boétie.
Il dit, nous étions deux corps en une seule âme. Eh bien, 11 ans avant, Saint Augustin disait, nous étions deux corps en une seule âme, comme dit le poète.
D'accord, mais c'est drôle.
Oui, vous voyez, par exemple, par rapport à Montaigne, on dit, vous faites des citations. Bon. Mais c'est extraordinaire, parce que vous ouvrez des essais de Montaigne, c'est une compilation de citations, il n'y a que ça. Et donc quand j'étais enfant à Bordeaux, on nous amenait dans la tour de Montaigne où il avait peint, je me disais, mais quel drôle de type, il s'est enfermé dans sa tour, il a écrit sur ses poutres des citations latines. Le bonhomme est dans la situation suivante, on s'égorge sous ses fenêtres, les guerres de religion font rage, la confusion règne, il se dit, mon Dieu, mais tout va être perdu, le savoir, les livres vont être perdus, il va Rome pour vérifier que les livres sont gardés par le pape, etc., que vraiment tout ça ne va pas disparaître. Et j'ai dit, mais alors il va y avoir un déluge, une catastrophe, peut-être que nous sommes dans la même situation. Alors il faut conserver absolument ce qu'ont dit les Latins, les Grecs, Démocrite, etc., parce que tout ça risque de disparaître. Et les essais, je vais parler de moi en train de lire, hein, je vais parler de moi en train de digérer, de ruminer, de mastiquer, tout ça, je vais à travers le gascon et le français. Et donc je vais produire cette œuvre, en effet, qui surgit quand on a l'impression l'impression qu'avant, c'est une sorte de brouillard. Et en effet, saint Augustin, c'est pareil. Il est encerclé, etc. Il faut sauver la Bible, les psaumes.
Mais, non, mais c'est, voilà. C'est ce que vous faites tous les deux par vos deux livres. C'est une oui. manière de prendre date pour le siècle à venir en disant voilà, le siècle est échu. Voilà ce qu'il faut garder.
Ce qu'il faut étudier, c'est la misère actuelle, c'est la misère de lecture, c'est l'oubli, l'amnésie, la perte du langage.
Ce que vous appelez aussi la tyrannie invisible.
Ce sont des livres de nécessité.
Enfin, quand vous parlez de complot social contre la lecture, c'est pas un peu poussé un peu loin ?
Non, je crois pas. Je crois qu'en
effet. Mais il vient d'où ce complot social ?
Ce complot vient du fait que la lecture, il faut relire Voltaire de ce point de vue, que toute tyrannie a comme ambition de faire des esclaves les plus soumis possibles. Or, la lecture, c'est l'esprit critique, c'est la comparaison, c'est la relativité, c'est le fait de passer d'un temps à l'autre. Ça veut dire que ça produit des individus critiques, automatiquement.
Et vous, Octave Bianchetti, vous voyez quelque part un complot social contre la lecture, une sorte de tyrannie invisible ?
Oui, oui. Mais il y a eu toujours...
Oui, il y a toujours eu.
Il y a eu toujours existé, oui, c'est pas propre à l'époque.
Il y a une forme actuelle.
Les gens, les femmes, les premières femmes qui ont écrit, par exemple, devaient se cacher, parce que les frères, les mères, les femmes ne pouvaient pas le permettre de se lancer dans la littérature et surtout dans les romans. Je veux dire, bon, c'est quelque chose, les femmes ont été condamnées très longtemps. Maintenant, peut-être...
Elles se sont rattrapées depuis.
Elles sont un peu trop nombreuses.
Un peu envahissantes, vous voulez dire
pas, un peu trop nombreuses.
Ah bon, vous trouvez qu'il y a trop de femmes qui écrivent. Ah ben oui, mais écoutez, on les a tellement enfermées pendant si longtemps, d'après ce que vous dites, que se sont vengées.
Manque un peu de métaphysique.
Bon,